À cette époque, c'est-à-dire autour de l'an 1500, Lisbonne est un des endroits les plus extraordinaires du monde. La capitale portugaise s'impose comme la porte et comme la clé de l'Orient, le point de départ de toutes les aventures, le point d'aboutissement de toutes les découvertes. Les rives du Tage grouillent en permanence, nuit et jour, de la faune la plus cosmopolite, la plus étrange aussi. L'activité est à son comble le matin, avant les heures chaudes de la mi-journée. Il faut imaginer un petit peu tous ces bateaux à quai, affrétés pour des destinations lointaines, à moins qu'ils ne reviennent faire la fortune des armateurs et des négociants. Lisbonne, à cette époque, n'a rien à voir avec la Lisbonne d'aujourd'hui. Lisbonne, à cette époque, c'est New York, c'est Hong Kong, mieux que ça, c'est tout le XVIe siècle en puissance avec ses espoirs et ses excès qui se trouvent résumés dans un estuaire. Alors on en prend plein les yeux, plein les oreilles, plein les narines aussi, hein. Ce sont ces odeurs de porc, odeurs de marais, de goudron, d'épices, et par-dessus tout, le bon air salin du large, celui qui fait chavirer l'esprit des rêveurs. Parmi ces rêveurs qui passent leur vie sur les quais, il y a un jeune homme qui n'est ni un matelot, ni un marchand à la sauvette. Fernand de Magalhães est un jeune noble sans fortune. Il est page de la reine. Seulement, il se sent seul, il se sent mal aimé, incompris. Et il n'attend qu'une chose, ce Fernand. Il attend le jour où lui aussi, il pourra courir le monde sur une belle caravelle. Du reste, ce jour va finir par venir. Dès l'âge de 18 ans, Magalhães s'embarque pour le grand voyage. Alors, il ira jusqu'à Goa en Inde, jusqu'à Malacca en Malaisie. Ses capitaines apprécient tout de suite son sérieux, son sang-froid. Seulement, tout le monde est d'accord sur un fait, il a mauvais caractère. C'est son problème dans la vie. Il est trop abrupt pour susciter la sympathie. Il est trop revêche pour inspirer la confiance. C'est qu'il connaît sa valeur, Magalhães, et qu'il se sent né pour de grandes choses. À l'ombre des rayonnages infinis de la Casa de India, il a potassé tous les planisphères disponibles. Il a rencontré même un cosmographe, Rui Faleiro, qui est un peu le contraire de lui. Lui est petit, sec, l'autre est grand et gras. Lui est assez renfermé, même renfrogné. L'autre est bavard, fanfaron même. Et là, tenez-vous bien, ensemble, ils ont acquis la conviction que l'on pouvait gagner l'Extrême-Orient, rejoindre les Moluques et leurs épices, non pas en contournant l'Afrique vers l'Est, mais en allant contourner l'Amérique vers l'Ouest. Alors Magalhães a formalisé sa grande idée et il est venu se poster sur le chemin du roi de Portugal. « Sire, je vous en supplie, lisez cela !» Manuel II a soupiré, dédaigné. Il a repoussé sans ménagement. « Sire, au moins que votre majesté m'autorise à chercher un soutien ailleurs. Oh, Magalhães, allez au diable !»« Allez au diable !» a dit le roi de Portugal. Vous savez que le diable, pour les Portugais, se trouve au royaume de Castille. Magalhães ne se l'est pas fait dire deux fois. Désormais, il sera Magellan à l'espagnol et dès qu'il peut, il vient s'installer en Andalousie. En fait, il s'installe même à Séville, chez son parent Barbossa. Celui-ci est un brave homme qui le reçoit généreusement, qui l'habille même de pied en cap. « Oh, t'en fais pas, mon petit gars, lui dit-il, je vais t'aider, moi. Et si tu le veux, nous ferons fortune ensemble. D'ailleurs, pour ça, je vais te présenter l'homme qui peut tout rendre possible. Bah, » il est plutôt bon, ce diable. Et c'est ainsi que Magellan rencontre Juan de Arenda à la Casa de Contratación. Il s'agit d'un homme puissant et avisé, un de ces hommes qui, dans l'instant, savent flairer le bon sujet. En l'occurrence, ils savent flairer le bon marin ou le bon filon. Arenda a écouté posément Magellan et il s'est convaincu sans aucune peine que ce petit homme avait raison. Alors il a souri. « Je vais vous présenter à mon roi, » dit-il. Décidément, il est assez visionnaire, ce diable. Le jeune roi Charles Ier d'Espagne, futur empereur Charles Quint, n'a pas encore 20 ans, mais lui aussi sait juger les hommes, et il a lu l'éclair de la certitude dans le regard du navigateur. Il se prend à rêver. « Et si ce Portugais, se demande-t-il, si ce Portugais était mon Christophe Colomb à moi ?» Charles n'hésite pas longtemps, il donne des ordres pour qu'une flotte soit confiée à Magellan. Quand je vous dis que ce diable espagnol est généreux. Cette fois, Magellan peut soupirer. Il a 39 ans, et pour la première fois, on vient de lui faire confiance. Il n'en revient pas, le Portugais. Pour la première fois, quelqu'un lui a vraiment donné sa chance et cette chance s'appelle Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria et Santiago, 5 navires. Oh, pas tout neuf. De vieux rafiaux, calfatés, radoubés, réarmés, mais ils feront l'affaire. Magellan se met au travail, alors il est partout, il surveille tout, revoit tout, contrôle tout, et d'emblée, il révèle d'incroyables facultés d'organisateur. Il assume de front l'acheminement de 3 stocks à bord. Un stock de vivres, évidemment, un stock de matériel, et puis toute une bimbeloterie qui servira pour les échanges à venir. Et quand l'été arrive à son terme, les 5 bâtiments sont repeints à neuf, avec des gréements entièrement refaits, avec de belles voiles écrues. La flottille s'orne de pavillons multicolores, et c'est un Magellan tout fier qui présente son armada à l'invité d'honneur des cérémonies de départ, un certain Faleiro qui l'a fait venir exprès de Lisbonne. La foule est venue jusqu'à Sanlúcar, à l'extrémité du Guadalquivir. Elle est en liesse en ce mercredi 21 septembre 1519. On peut dire qu'elle accompagne d'une clameur le départ des vaisseaux et, tandis que les prêtres bénissent encore la petite flotte, les canons de la rade lui souhaitent bon vent, à leur façon, par une salve détonnante. Magellan, depuis son poste de pilotage, salue la foule, seulement au fond de lui, il sait très bien que le ver est dans le fruit, ou plutôt qu'il est dans le bois des carènes. Or, ce ver porte un nom, la jalousie. En effet, les nobles capitaines espagnols qu'on lui a donnés ont du mal à accepter la tutelle de ce petit homme boiteux, renfrogné, de surcroît portugais. Comment obéir à un tel maître ? Certains, comme le marquis de Cartagena, qui est grand d'Espagne, que vous savez, le genre de grand seigneur, et qui commande le San Antonio, certains comme lui manifestent d'emblée leur désobéissance. L'épreuve de force est pour bientôt. À la première occasion, le capitaine général, c'est-à-dire Magellan, va être obligé de montrer sa force. Il destitue Cartagena pour insubordination, et d'un, c'est ainsi, Magellan ne se perd pas en vain discours, mais quand il faut agir, il agit, avis aux amateurs. Le seul qui ait vraiment la confiance du capitaine général, c'est son esclave malais, un certain Enrique, un colosse à qui jadis à Malacca et qui lui sert depuis des années de valet et de garde du corps. Ce malais le suit partout, comme son ombre, mais ce n'est pas son âme damnée, ce serait plutôt, si vous voulez, son ange gardien. Un ange gardien qui se promène avec un grand poignard à la ceinture, on ne sait jamais. Début décembre 1519, les vigies de l'expédition Magellan font entendre ce cri si cher aux marins au long cours « Terre en vue ! Terre !» L'amiral peut enfin se dérider. La voilà donc, cette Amérique dont on commence tout juste à connaître le nom. Les équipages sont occupés à célébrer ces retrouvailles avec la terre ferme, quand accourent les Indiens et surtout les Indiennes, dont on peut dire qu'elles ne sont pas vraiment farouches. Les marins sont très heureux, ils s'apprêtent à passer des semaines bien douces dans les huttes regorgeant de fruits en tout genre, quand ils se voient soudain rattrapés par le sérieux inaltérable du capitaine général. « Allez, ravitaillement et en route !» ordonne Magellan. Là, les matelots traînent un peu la patte, les capitaines, eux, s'insurgent. Mais pour qui nous prend-il, ce fanatique ? Il n'a qu'une chose en tête, son passage vers la mer du Sud. Eh oui, le passage. C'est en effet l'obsession de Magellan, une obsession de tous les instants. Seulement voilà, on a beau piquer au Sud, aucun passage ne se dessine. La flottille s'engouffre dans une succession de fausses pistes ou de fausses passes, des embouchures, des anses, des bras de mer, mais qui se révèlent toujours être des cul-de-sac. Alors la lassitude va gagner les équipages. On se met à douter de plus en plus. La méfiance s'installe, et avec elle, les mauvaises idées. 3 vaisseaux sur 5 se révoltent. Pour Magellan, c'est un coup terrible. Le capitaine général, malgré sa colère, va devoir faire preuve de patience, de ruse, moyennant quoi il parvient à retourner la situation à son profit et il reprend le contrôle de ses troupes, châtie les coupables, trouve le moyen de sortir renforcé de cette épreuve. Après quoi, la marche vers le sud reprend, toujours plus âpre, toujours aussi peu fructueuse, on a beau faire et tenter, il n'y a pas de passage en vue. Les degrés de latitude méridionale s'accumulent. 44 degrés, 48, 52 degrés de latitude sud. À l'arrière de Trinidad, le capitaine général ne se laisse pas démonter. S'il le faut, dit-il, nous descendrons jusqu'à 75 degrés, mais nous finirons par trouver ce sacré passage, je vous jure que nous le trouverons. Un matin d'octobre, les veilleurs annoncent un promontoire à tribord. Oh, un de plus, on ne lève même plus la tête pour les chercher du regard. Quand même, Celui-ci paraît dissimuler une entaille plus profonde dans la côte. Le San Antonio et la Concepcion, envoyés en repérage, disparaissent 3 jours entiers et ils reviennent porteurs de nouvelles encourageantes. Il y a de l'eau salée très loin dans les terres, avec un flux et un reflux. Mais alors peut-être qu'il s'agit du passage tant espéré. Magellan ne bronche pas, mais cette fois, son cœur bat plus vite. Il décide que les 4 navires qui restent s'enfonceront ensemble vers ce passage tant espéré. Seulement parvenu loin dans les terres, il y a 2 voies qui s'offrent à son choix. Le capitaine général envoie le San Antonio et la Concepcion en repérage à gauche et lui-même prend à droite, c'est-à-dire qu'il met le cap au nord-ouest avec la Trinidad et la Victoria. Sans le savoir, le grand navigateur a choisi la bonne route, de sorte que le 28 novembre, il va percevoir dans le lointain ces cris provenant d'une chaloupe envoyée en éclairage. « Le passage ! C'est le passage !» Alors, sur le pont arrière du vaisseau amiral, Fernand Magellan demeure immobile. Il a l'air impassible comme ça. Seul le fidèle Enrique peut voir 2 grosses larmes qui coulent sur ses joues, jusque dans sa barbe. Seulement à présent, 2 des vaisseaux manquent à l'appel. On retrouve la Concepcion assez vite, mais l'équipage du San Antonio s'est mutiné devant l'insuccès de la mission et il a décidé d'abandonner l'expédition et de rentrer seul à Séville. Le problème, c'est que ce navire était un garde-manger flottant et qu'il emporte avec lui le gros des vivres. Qu'importe au fond, le nouvel océan qu'on se prépare à traverser paraît toujours bleu, toujours calme. Le capitaine général décide même qu'on va l'appeler « Océan Pacifique ». En vérité, il aurait peut-être mieux valu le baptiser « Océan Désertique ». Car en dépit d'une vitesse de croisière élevée, les 3 navires n'aperçoivent pas au gré des jours qui s'accumulent le moindre îlot à l'horizon. C'est d'autant plus regrettable que l'on se rapproche de l'équateur. Il fait chaud. L'eau commence à manquer. La nourriture aussi. On se mettra bientôt à chasser le rat dans les cales en attendant de faire rôtir les chats du bord. Des semaines vont passer ainsi, sans qu'on décèle le moindre banc de sable. On en viendra à faire de la soupe de copeaux de bois trempés dans de l'eau de mer. Pire, certains matelots vont découdre les carrés de cuir au coin des voiles et les mettre à mijoter des heures entières. Ils mangent ça, ce qui fait que le scorbut ne tarde pas. Leurs gencives se mettent à gonfler, les hommes tombent comme des mouches. Presque chaque jour, on doit faire basculer des corps sur la planche graissée au suif, du moins tant que les marins n'ont pas eu l'idée de lécher le suif. Décembre, janvier, février, enfin, par un jour béni de mars, l'expédition découvre un petit archipel. Les indigènes accourent à bord de leur pirogue, ils montent à bord et se livrent à un pillage en règle. Leur territoire en écopera du nom d'archipel des Larrons. Puis ce seront les Philippines et ceux qui ont survécu vont connaître le bonheur de boire de nouveau à sa soif, de manger de nouveau à sa faim. Le 28 mars 1521, retenez cette date, l'ange gardien de Magellan, l'esclave au poignard, se rend soudain compte que le dialecte des indigènes ne lui est pas inconnu. Et là Magellan exulte. « Mais Enrique, tu comprends ce que disent ces hommes ? Il embrasse le malais comme du bon pain, mais tu réalises ce qui arrive ? Tu es parti de ton pays par l'ouest, aujourd'hui tu y reviens par l'est, Enrique, tu es le premier homme à avoir fait le tour du monde !» Il a bien changé Magellan. Depuis qu'il a réussi son pari, c'est un autre homme, lui qui s'habillait de bure et de lin, le voilà paré de soie et de fil d'or, lui qui ne parlait presque jamais, oh, le voilà devenu brillant causeur, surtout lui qui était la prudence incarnée, le voilà qui se mêle des querelles intestines entre les roitelets locaux. Il s'est pris d'amitié pour le sultan de Cebu, qui s'est converti au catholicisme avec tout son petit peuple, et bientôt, le capitaine général va prendre le parti de ce sultan contre le raja de Mactan. Convaincu de la supériorité militaire universelle des Espagnols, Magellan organise une expédition punitive qui va tourner au bain de sang. C'est aussi bêtement que ça, par un petit matin d'avril 1521, que sur une plage inconnue de Mactan, l'illustre voyageur portugais, explorant pour le compte du roi d'Espagne, meurt percé de flèches empoisonnées, abandonné dans le ressac qui rougit autour de lui. Ces hommes ne pourront même pas récupérer son corps. Il ne verra jamais le capitaine général les ultimes péripéties de son expédition. Il ne verra pas la Victoria entrer seule à Séville, avec seulement 18 rescapés à son bord. Il ne verra pas non plus Magellan, le capitaine Sébastien Elcano, se faire honteusement valoir à son détriment pour cueillir seul tous les lauriers. Du moins, il aura tenu parole et prouvé une fois pour toutes que la terre était bien ronde. Peu importe après cela que la route ouverte par l'ouest ne soit pas la plus praticable, de toute façon, comme devait l'écrire son ami le jeune Florentin Pigafetta, je ne pense pas que personne à l'avenir veuille entreprendre un pareil voyage.